Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui est fan de Dolly. Bé !
Ce n'est pas ma voix, ni celle de Thio, mais que se passe-t-il? Nous avons un nouveau chroniqueur! Nous recevons Mathieu, ce qui fait qu'effectivement je me sens très entouré par des personnes aux noms identiques. Heureusement, ils n'ont pas la même barbe, sinon je me croirais peut-être au Pink Flamingo, un club très connu, où Mathieu a ses habitudes, je ne dirai pas lequel.
Pour info, moi je suis dans le Grand Nord. Hein.
Et donc, tu vas venir nous faire un peu des rubriques manga et compagnie. Vite fait, pour te présenter, bon déjà, on avait déjà eu droit à ta présence en sorte de teaser dans notre fameux podcast des 2 ans.
Fameux.
Dis-nous rapidement un peu, toi, ce que tu lis en manga, ce que tu fais du manga, tes goûts rapides, rentre pas dans la critique, hein, juste pour donner une idée aux gens.
Rapide, bon ben beaucoup de seinen surtout, du manga pour adolescents adultes, certains shoujo et shonen mainstream. Bref, c'est assez éclectique, mais bon, c'est vrai que je fais le tri assez rapidement. Il y a certains tomes où je suis obligé sur les conseils de certains, de me remettre dedans, mais c'est vrai que bon. J'essaye en règle générale d'avoir des trucs plus adultes et c'est ce que j'essayerai de présenter lors de cette émission. Okay. Sinon, pendant que j'y pense, bonjour à tous les poditeurs parce que je me suis même pas exécuté à dire bonjour aux gens. Donc bonjour.
Ouais, voilà, bon, on traduira tous les mots bizarres dans les prochaines émissions parce que shono, seinen, shoujo, tout le monde ne connaît pas forcément le sens. Hein. C'est pas forcément une évidence. Nous, on peut se la péter, genre on est super érudit de la BD, on connaît.
Surtout quand tu les prononces pas correctement, mais.
Ça y est, je viens de me faire.
Bah, comme il t'a cassé un.
Bon, on retrouve Mathieu en fin d'émission, hein, pour sa rubrique manga où tu nous parleras de Vinland Saga.
Voilà, ce sera d'ailleurs sa seule rubrique.
Tout à fait.
Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, à bientôt. Et là, on va enchaîner en vous donnant les grands gagnants du concours La fille de l'eau.
La classe.
La classe. Félicitations aux gagnants. Une bonne
et donc
dans
nous
le
pouvons féliciter Delphine Dantier, Proton et Françoise Cullier, qui ont remporté chacun un album La Fille de l'eau
et une part de participation pour La Fille de l'eau.
Sur MMCBD, on va vous envoyer un mail pour vous annoncer tout ça, vous expliquer comment ça marche, etc. Avec MMCBD, vous allez être en contact avec les gentilles personnes de cette éditeur, bravo à vous, on pourra faire plein d'autres concours comme ça, c'est trop cool.
Félicitations à vous, c'est un concours très compliqué qui avait des questions d'une difficulté quasiment insurmontable.
Mais je pense qu'on aura un petit suivi parce que après pour l'épisode sur le chômeur et sa belle qui sortira en février avec donc Jacques Louis que j'ai interviewé, je pense que je vais essayer de faire un petit concours pour aller avec.
2012 sera l'année des concours.
Ouh, ouh.
Dans les bacs.
Waouh. Unwritten numéro 2.
Ça fait combien de temps qu'on a chroniqué le tome 1?
Il y a longtemps.
Ouais.
Ça fait waouh. Bah oui, ça sort assez lentement, mais d'un autre côté, c'est des albums qui contiennent. Dans le premier, il y avait 5 épisodes. Là, on en a 7.
Ouais.
7 épisodes de Unwritten par Mike Carey et Peter Gross qui nous arrivent donc chez Panini. Pour la dernière fois, je pense, à 17 euros. C'est pas mal, hein, cet épisode à 17 euros.
Non, c'est bah, surtout que c'est toujours, bah, c'est Panini quoi. Ça reste.
Ça continuera chez ça va bien. Ouais. Ça va continuer. Ouais,
c'est cool.
Bon, ça fait partie des valeurs sûres de Vertigo apparemment. Hein. Ils vont apparemment chez Urban Comics reprendre à peu près tout ce qui est Vertigo et j'ai cru comprendre qu'ils allaient essayer de garder le même traducteur.
C'est bien.
Donc c'est de la balle. The Unwritten nous raconte les histoires de Tom Taylor, le fils de Wilson Taylor, un écrivain qui a écrit une super saga de jeunesse avec l'histoire d'un petit sorcier et de ses deux amis, qui a fait un carton et qui a disparu alors qu'il devait sortir le 14e tome, qui devait être le dernier qui racontait la fin.
Et Tom Taylor, en fait, vit seulement en fait en faisant les conventions.
Il fait la Tomicon, convention des fans de Tommy Taylor.
Et sauf que d'un coup, quelqu'un fait courir le bruit que Tommy Taylor n'est pas réellement le fils de Wilson Taylor.
Mais qu'il l'est. Tommy Taylor. Et on commence à avoir un mélange entre la réalité et la fiction qui se mélange pas mal. Et on avait beaucoup de pistes dans le premier tome qui nous donnaient vachement envie.
Ouais, le premier tome donnait envie parce que c'était un bon préambule, une bonne mise en bouche. Et là...
Bon, papa, ça attaque. Et paraît que tome 3, c'est encore pire. Alors donc, Tom Taylor est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Bon, jusqu'ici, c'est classique. Et se retrouve donc enfermé, extradé, parce que le meurtre avait eu lieu en Suisse.
Et il est extradé en France.
En France, à Donostia, dans une prison qui se trouve près du col de Roncevaux. Enfin, sur le col de Roncevaux, d'ailleurs, dans les Pyrénées. Donc, un endroit riche en histoire et en légende. Car la chanson de Roland, comme ils nous le disent dedans, est une histoire. C'est juste une chanson de propagande. Et ça s'est pas vraiment passé comme c'est dit dans la chanson. En vrai. Et donc, Tom Taylor se retrouve coincé dans cette prison, à devoir essayer de s'en sortir à peu près comme il peut, avec la jeune fille, Lizzie Exam, qui essaye de le faire libérer, et qui doit recourir à des méthodes assez bizarres pour le faire.
Sachant quand même que c'est la fille qui a fait courir le bruit qu'il n'était pas...
Oui, qui l'a foutu dans la merde.
Ouais, carrément.
Voilà. Et en plus, un directeur de prison qui n'aime pas du tout Tom Taylor, car lui...
raconte les histoires à ses enfants.
Ses enfants sont fans des histoires de Tommy Taylor. Faire bien la différence entre Tommy et Tom. Raconte les histoires de Tommy Taylor et trouve que Tom Taylor a massacré la mémoire de son père en devenant un monstre. Et on commence à voir ce mélange entre... Donc on a toute cette... passage de la prison qui est super intéressant. On commence à voir les choses qui se mettent en place. Tom Taylor qui commence de plus en plus à croire qu'il y a quelque chose quand même un peu bizarre et magique. Enfin, c'est difficile de plus y croire à ce niveau-là. Surtout que maintenant, il a une poignée qui ouvre des portes. Oui, ça semble bizarre comme ça, mais elle ouvre des portes quand il n'y en a pas.
Qui vont dans un monde qui est un petit peu irréel.
Voilà. Ça, c'est pour la première histoire. Il y a une deuxième histoire où il se retrouve dans une histoire, dans un livre. Qui est Jutsus, qui est un livre qui avait été repris, donc qui était un livre écrit par des juifs, qui était un livre très dans la tradition hébraïque, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait été repris par Goebbels pour être adapté en film, et en fait un film de propagande anti-juif. Donc une œuvre qui a été torturée et violée telle qu'elle est définie dans le truc. Et donc il se retrouve dans ce livre-là, à croiser Goebbels, etc. Enfin, ces trucs qui sont un peu fantomatiques, c'est trop bizarre. Et là, on commence à comprendre comment ça marche, la relation entre les gens et les histoires. Et on commence à voir un peu ces deux univers parallèles qui commencent à se mélanger les uns aux autres. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et la troisième partie...
Qui est carrément en dehors de tout.
De tout. Où on va suivre une des personnes qui était présente dans le premier tome, qui a eu un grave souci.
Pas trop.
Et qui se retrouve coincé dans un livre.
Conte pour enfants.
Ouais, conte pour enfants, qui serait un mélange entre Peter Rabbit et Winnie l'ourson. Et aussi Le vent dans les saules. On est dans ces types d'histoires avec les animaux anthropomorphes qui sont tous gentils. Alors c'est écrit très joliment, des jolies phrases, et sauf qu'il lui fait « Putain d'enculé, je veux me casser de cette merde !»
Parce qu'il en a ras-le-bol de se lever tous les matins et de bouffer des carottes.
Voilà, il veut réussir à s'échapper, et on apprend comment les histoires se défendent.
Non, c'est super bien raconté. Au niveau du scénario, c'est... Il y a tellement de pistes, ça part tellement dans tous les sens que... Moi, j'ai été surpris de tout le long.
Riche au niveau du scénario. Parce que je trouve que ça chope une richesse justement au niveau de la mythologie. On commence à voir la richesse de la mythologie que Mike Carré est en train de mettre en place. C'est assez énorme. Moi ça m'a vraiment bien pris. C'est très bien écrit. Ça mélange beaucoup de choses et très intelligemment. Le dessin de Peter Gross.
Assez inégal.
Moi j'ai mis Libéré. Je trouve que dans le premier tome il avait un style qui était très plat. très neutre. Alors, je sais pas s'il a changé d'encreur, j'ai pas suivi. Là, je trouve que. Alors, déjà, on avait trouvé que dans la dernière histoire du précédent tome, il était vraiment très très bon. Je sais pas si tu te souviens, celle qui se passait avec Rudyard Kipling. Il était très très bon, parce qu'il avait pris un style plus ancien, etc. Là, je le trouve libéré, c'est-à-dire que. Moins attaché à suivre quelque chose de propre, de lisse, il se laisse un peu plus aller par un style un peu plus lâché, un peu plus péchu, et puis aussi à varier les styles, c'est-à-dire quand il s'amuse à dessiner les périodes avec Roland Ronceveau, il a un style différent que quand il raconte les périodes contemporaines.
Ouais, mais en fait, moi, c'est le côté contemporain qui, des fois, je trouve, est un peu... et pas au niveau, quoi. Tous les passages où on part en dehors de la réalité, dans le passage avec donc justement avec Goebbels, dans le passage avec Roncevaux, dans le passage à la fin avec donc le conte pour enfants, ces passages-là sont, je trouve, superbement dessinés, un truc de malade. Et le reste, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu assez de temps qui a été pris pour qu'il puisse fignoler le dessin. Quoi, t'as les visages qui sont un peu, qui manquent d'expression, qui sont pas c'est un peu bâclé, quoi. Voilà. C'est vraiment le seul défaut que je lui trouve pour l'instant, c'est celui-là. C'est vrai que
les infos sont pas très claires, parce qu'au niveau de ce qui est noté, apparemment c'est Peter Gross qui dessine tout le temps, et ensuite ils mettent des auteurs pour les finitions. C'est-à-dire que pour Jutsus, donc il y a Ginny Broxton qui fait les finitions, et pour la dernière histoire, Elisa May Hertford, les Contes du Bois des Jolis Songes. C'est Kurt Huggins et Zelda Devon qui font les finitions. Je pense qu'en fait, ça doit être les dessins originaux et c'est les encreurs qui doivent permettre d'aider à changer les ambiances.
Peut-être. Peut-être. Peut-être.
Peut-être.
Peut-être.
Ça va arrêter de hurler maintenant. Moi, la série m'a bluffé. J'ai hâte d'avoir la suite. Paraît que ça devient encore mieux.
Mais là, je sais pas quand est-ce qu'on l'aura par contre.
Ouais, je pense qu'on en a pour un petit moment. Donc, Les Infiltrés, 17€ chez Panini Comics. Jetez-vous dessus. C'est une très très bonne série. On avait dit qu'on n'en parlerait plus.
D'Untold Bullets ?
Ouais.
Ouais, mais bon.
Tome 14. Ouais, la prochaine fois, on en parle peut-être dans Express, à moins qu'il se passe un truc énorme.
Bah, celui-là aurait pu passer en Express, hein, parce que franchement, il ne se passe rien.
Donc, c'est le tome 14 qui s'appelle
Un trône pour deux.
Et qui est encore un tome de mise en place.
Ouais, mais là, moi, je le dis tout de suite, j'ai été très déçu.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Tu trouves que l'intrigue n'avance pas ?
Ah ben là, surtout, ça avance pas, et puis il se passe rien.
Ah ouais.
Mais enfin, pour moi, voilà, c'est.
Bah, c'est une histoire de succession dans une des familles des 13.
Ouais, mais sauf que le côté où tu étais un peu. Où on était un peu acteur, on va dire, de l'histoire, quoi. Moi, je me sentais vraiment. Impliqué dedans, quoi. Là, j'étais purement spectateur du truc.
Rapidement, je résume pour ceux qui découvrent. Pour la 14e fois. Mais non, mais vite fait. En gros, nous avons des familles qui contrôlent un peu le monde et tout ce qui est politique en sous-main depuis quelques siècles. Qui avaient des gens pour les garder qui s'appelaient les Minutemen. Et l'un d'entre eux, en gros, a décidé de foutre un peu le bordel et d'essayer de foutre la merde dans les familles. C'est l'agent Graves, et pour ça, il va voir des gens, t'as vu, je le raconte différemment, ça résume mieux. Il va voir des gens, leur laisse une mallette avec un flingue, 100 balles, et les preuves de qui leur a pourri la vie. Et les gens, on peut faire ce qu'ils veulent avec. Alors qu'en fait, il sait toujours pourquoi il a passé à qui, les preuves sont souvent des manipulations et des bidouilles, même si c'est toujours vrai, mais c'est toujours mis sous l'angle qui va bien.
Oui, mais ça reste a priori quand même... emprunte quand même une certaine véracité, quoi. Pour qui t'as pourri la vie, c'est réel.
Et donc là, on a une histoire de fraternité. Deux histoires de fraternité qui se croisent. Une histoire de fraternité au niveau des 13. Famille. Donc c'est-à-dire qu'on a un membre des 13 qui a été un peu éliminé dans le tome précédent.
Non, il est mort de mort naturelle.
Oui, ça arrive souvent dans leur famille.
De sa belle mort. Hein.
Et donc nous avons un frère et une sœur jumelle. Bah, et en gros, on leur dit, il peut y avoir qu'une seule personne à la tête de la famille, c'est un de vous deux, battez-vous. Donc ils commencent à se manipuler entre eux pour foutre la merde. Et en parallèle de ça, on suit... deux frangins, dont un qui est un petit magouilleur et l'autre qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir honnêtement. Ce qu'il peut.
Ouais, qui fait ce qu'il peut parce que c'est quand même plus ou moins honnête, il est un peu homme de main quand même.
Ouais, hein. Ouais. Enfin bon, oui, mais lui il trahit pas ses patrons. Qui se retrouve à être.
Tu bosses pour la mafia, tu peux pas dire que tu essaies de dans la légalité quand même.
C'est une famille, tout ce qu'il y a de plus honorable.
Ouais, c'est ça.
Ils ont un code d'honneur, ces gens.
Ouais, vas-y, enchaîne.
Et donc, il essaye de sortir son frangin de la merde. Enfin, on voit qu'il y a une petite mésentente entre les deux frangins, etc. Et on va voir en parallèle, bien sûr, les deux intrigues sont liées. On apprend qu'un des deux frangins a eu la mallette, je ne dirai pas lequel, parce que c'était un petit peu sympa à apprendre. Non, j'ai trouvé que c'était égal. Il continue à poser ses pions, en fait. Moi, le scénario, j'ai mis que c'était un échiquier, quoi. Voire même un jeu de go, on pourrait mettre.
Ouais, mais là, j'ai mis décevant. Décevant, d'accord, pour le scénario, parce que, on n'avance pas, quoi. Je veux dire, alors, c'est vrai que 100 Bullets doit avoir combien, 100 numéros. On en est au combien, là?
Je sais pas, ça doit être plus
75. Ouais. Là, il y a 6 numéros dans celui-ci. Donc, on est au 75e. Ouais, ok, bon, ben, faut. Ouais. Il y a encore 25 à faire. Voilà, moi je trouve que là, c'est commencé un peu à durer en longueur, quoi.
Allez, c'est bientôt fini.
Non, mais ouais, dans le sens où peut-être qu'il faudrait un peu, soit un peu plus péchu, quoi.
D'accord. Ouais, non, moi je trouve que ça respecte le contrat d'histoires qui ont l'air indépendantes à chaque fois, mais qui en fait font avancer une intrigue principale. Moi, c'est ces ambiances qui me plaisent, cette façon qu'il a. Puis surtout, la façon dont les deux histoires parallèles se répondent en général. Je trouve ça plutôt bien foutu. Le dessin, c'est égal à lui-même. Hein. Rissot est toujours exceptionnel dans son noir et blanc, péchu.
Toujours aussi sombre, toujours aussi, aussi violent.
Et... mise en scène superbement travaillée.
Avec des bons angles, quand même.
Ouais, des angles de vue complexes, des cadrages super fouillés, une mise en page intelligente qui ne suit pas un gaufrier régulier du tout, mais qui est pourtant d'une fluidité de lecture magistrale.
Et je pense quand même que c'est un fan de Lono, en fait.
Ouais.
Ouais.
Ouais, Lono, il a la classe, ce bourrin.
Gros bourrin.
Uzagi Yojimbo, numéro 21. 21 ! Putain, on l'a attendu, celui-là. Hein.
Ben, ça commence à faire un peu long entre les numéros, quand même.
Rassurez-vous, le 22 sort bientôt. Il est prévu pour... il sera sorti, là.
Pourquoi ?
Le 18 janvier. Mais parce que Stan Sakai sera à Angoulême sur le stand des éditions Paquet. Et il va faire un petit tour de dédicace en France, un peu partout, mais pas chez nous. Mais si on va jusqu'à Toulon, on pourrait le voir.
Et que du coup, tu vas travailler ton anglais pour essayer de faire une interview de...
Stan Sakai.
Si t'arrives quand même à pécho une interview de lui, là, ça claque quand même.
Ça serait la classe.
Là, on passe à l'international, ça y est, quoi.
Ouais. Enfin, d'un autre côté, vu mon niveau d'anglais, j'ai peur que l'interview ne soit... ridicule. C'est-à-dire que je vais lui poser une question que j'aurais écrite, je vais enregistrer ce qu'il dit sans rien comprendre et j'essaierai de traduire après. Donc, Uzagi Yojimbo numéro 21, nous suivons toujours les aventures du lapin Ronin dans ce style très anthropomorphique, style très simple. Ça sort chez Paquet dans un format manga, ça coûte 6€ le tome, c'est super...
Un format manga qui se lit quand même à l'occidental.
Oui, parce que c'est fait par un occidental malgré son nom, hein. Il vit en Californie, je crois. C'est ça. Voilà. Hein,
hein. Bon.
C'est un jaune bronzé.
Il va à San Diego, ça va.
Voilà. Toute l'histoire est construite autour du conflit. Enfin, c'est très bien construit d'ailleurs. L'introduction nous raconte trois choses qui ont l'air de n'avoir rien à voir. C'est-à-dire le conflit entre Tomoe, une des samouraïs qui travaille pour... je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ont toujours des noms couchés dehors, c'est japonais. J'ai du mal, hein. Franchement. Vas-y, comment il s'appelle ? Vas-y, toi, dis-le.
Non, oh, mais c'est un jeune seigneur qui...
Un jeune seigneur, voilà.
Voilà, qui a accédé au pouvoir grâce à Uzagi et à Tomoe, justement.
Voilà. Et donc, on suit le conflit entre elle et sa cousine.
Voilà.
On voit que sa cousine est quelqu'un de sans scrupules.
Un paysan qui a trouvé un buisson particulier.
Voilà.
Et une épidémie de peste.
Et ensuite, c'est trois trucs en introduction. Et on va voir que c'est lié. Parce qu'il y a une épidémie de peste dans une région. Tomoe est envoyée là-bas pour enquêter.
Mais elle découvre
que ce n'est pas une épidémie de peste et qu'en fait, on a trouvé quelque chose là-bas et que sa méchante cousine est sur place.
Parce qu'elle travaille pour le seigneur voisin.
Voilà, et que c'est le bordel. Il y a tout un complot politique. Et Uzagi, comme d'hab, débarque.
C'est ça.
Bon, pour aider Tomoe aussi au milieu. Moi, je trouve toujours que c'est toujours aussi bien écrit. Le dessin est simple, c'est mon mot pour le dessin, mais super efficace, super.
C'est ça. Mais donc, il y a pas d'évolution, je trouve, dans le sens de Stan Sakai.
Je pense que ça évolue lentement, ça évolue. Je veux dire, tu compares entre le numéro 21 et le numéro 1, rien à voir, quoi.
Oui, mais l'évolution, peut-être qu'elle est très linéaire, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que c'est. Y a pas de,
j'ai beaucoup aimé la gueule qui a changé au un des méchants. Je trouve qu'il a une gueule géniale, quoi. Je sais même pas ce que c'est comme animal, quoi. C'est
un rhinocéros.
Un hippopotame, il a pas de cornes.
Peut-être.
Ouais, enfin j'en sais rien, mais il a une gueule, je trouve géniale.
Mais bon, voilà, ouais, il y a pas d'évolution, ça reste quand même toujours le même.
Oui.
Le même dessin, l'histoire est quand même toujours intéressante. Ça se lit facilement, c'est agréable. Voilà.
C'est une histoire complète. On voit qu'il y a une continuité qui se crée dans l'histoire d'Uzagi, qui est assez bien foutue. La série se continue, hein, se poursuit, elle ne s'arrête pas.
Bah, disons une fois qu'il avait fini le cycle là, de l'épée légendaire, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de creux.
Bah, c'est bien aussi, ces petites histoires qu'il fait à chaque fois, les histoires courtes.
Et là, du coup, on part sur l'idée du... Bah justement de la guerre entre les clans qui commence quand même à être de plus en plus par coup indirect va bien tôt ou tard se déclencher quoi.
Voilà, bah le prochain tome il me semble va être lui aussi sur des petites histoires courtes, encore un tome de transition, une histoire de cérémonie du thé et compagnie, ce que j'ai compris en lisant les previews sur le site de Paquet. En tout cas, moi, je suis un grand fan. Je pense que d'ailleurs, le prochain Uzagi sera dans une splash page parce qu'il faut qu'on raconte plein de détails sur cette série qui a une histoire très intéressante.
Ok.
Ok.
Torgal, le tome 33, donc par Rosinski et Santé.
Pas les pieds.
Sante ou
Sante, je crois que c'est Sante.
Sante, bon, désolé, Yves Sante. Hein.
Voilà, Grzegorz, parce qu'il y a un Z après le R, faut le savoir. Grzegorz Rosinski. Et Yves Sand. C'est dur, hein, dis Grzegorz.
Grzegorz.
Ah, t'as vu, c'est dur.
Rosinski, donc c'est bien aussi.
Ouais, c'est le tome 33, donc c'est le quatrième tome scénarisé par Sand. Après que Vanam ait arrêté au tome 29. Et on revient un peu sur Torgal. Jusqu'ici, toutes les histoires se focalisaient beaucoup sur Jolan.
Ouais.
Et un côté très mythologique, en fait. Tout ce qui était le côté magique. Là, on revient sur un truc un peu plus terre à terre au niveau de l'aventure, avec Torgal qui continue à essayer de trouver son enfant qui a été enlevé. Il aime bien rechercher les membres de sa famille qui ont été enlevés. Les membres de sa famille qui ont été enlevés. Mais d'ailleurs, ces membres de sa famille il les a fait que pour se faire enlever.
Ça rappelle presque des aventures de jeux vidéo, ça aussi, tu vois.
Ouais, ça m'a fait penser à la Galère Noire, tu vois, qui est un des premiers tomes quand il recherchait Aricia. Et donc, bah, il se retrouve à suivre des gens dans le Grand Nord, quoi, sur la banquise, machin chose, sur un bateau qui s'appelle le bateau sabre. Pourquoi ? Bah, parce qu'il arrive à. Enfin, il a un brise-lame qui lui permet de passer à travers dans la glace. Et de se retrouver confronté à une bande de pirates, vikings, qui ont perdu un trésor au fond de l'eau. Et qui envoie tous les membres d'un village à la mort pour essayer de le récupérer, alors qu'il y a un méchant requin.
Non, un orque.
Un méchant orque, pardon.
Enfin, c'est une maman orque, en fait.
Ouais, qui bouge tout.
Un bébé et que du coup elle est agressive parce qu'ils sont trop proches de son bébé.
Voilà pour le thème. On suit un petit peu Jolan, histoire de dire que ces histoires
sont.
Qu'on l'a pas abandonné. Voilà pour la base. On est, selon moi, dans un Torgal très classique. C'est pas mauvais. Je passais un moment agréable à le lire, mais je m'en souviendrai pas.
C'est pas exceptionnel non plus.
Voilà.
Je trouverais même qu'au dessin, moi, j'ai trouvé ça un peu. Enfin, le mot que j'ai dit, tu vois, c'est un peu grossier, quoi.
Sur le dessin ?
Ouais.
Moi, c'est le côté inégal qui m'a marqué, parce qu'il y a toujours certaines planches quand ils travaillent vraiment sur les contrastes de couleurs, sur le bleu, sur la banquise, etc., qui sont vraiment superbes. Il a un sens du contraste au niveau graphique que je trouve super intéressant. Il a un usage du bleu et du vert que je trouve génial. Maintenant, c'est vrai que ça perd en précision, je trouve, par rapport à d'autres tomes.
Voilà. C'est pour ça le terme de grossier.
Mais c'est vrai que, par exemple, toutes les scènes sous-marines,
il y a encore des moments où, voilà, je pense pas que le gars il est tout perdu non plus, hein, mais je pense qu'il y a peut-être eu un peu moins d'implication.
C'est plus, ouais, il y a une recherche plus expressive dans le trait, un peu moins figuratif parfois. Enfin, il est à la limite et pas la bonne en fait.
Voilà.
Mais il reste quelques planches superbes. Moi, je suis toujours curieux de Torgal parce que c'est une série qui me plaît depuis toujours, hein, donc j'aime depuis tout petit. C'est une des séries qui m'a amené à la bande dessinée, on va dire, pour grand. Donc, oui, c'est beau. Est-ce que tu recommanderais, ouais, pour les fans de Torgal?
Pour les fans de Torgal, voilà. Si vous voulez la collection, oui. Mais
voilà,
sinon,
si vous n'êtes pas fan de Torgal, achetez plutôt toute la série de la chute de Braxaris, etc.
Voilà, ouais. Achetez plutôt la série de Van Ham, ce sera peut-être plus.
Voilà, mais
plus pertinent.
Dans les tomes du milieu à peu près, qui sont, tu sais, à partir des archers,
des archers, ouais.
Ouais. Au-delà des ombres était excellent aussi.
J'ai le truc de la montagne aussi.
Ah oui, le maître des montagnes.
Le maître des montagnes.
Chronique du maître des montagnes sur Bulle et Omatopée et Ginny, on a parlé en bien et c'est une de mes préférées de Torgal.
Vas-y, casse mes lunettes, toi.
Blotch! Page!
Diable, je suis fait! Mais... Professeur Mosclure, comment avez-vous pu faire cette chose? Comment avez-vous pu trahir votre pays? La France!
Je ne suis pas le professeur Mosclure.
Oh!
Je suis Thanatos. Ha ha! Tu es bien, tu es fait. Tu vas bientôt être découpé par mes lasers. Mais qui donc? Les services secrets français ont-ils envoyé pour essayer de m'avoir cette fois-ci?
Je suis Bono. Jean Bono.
Eh bien, tu vas bientôt être cuit, mon petit cochon. Ha ha!
Quoi? Tu comptes envoyer tes missiles U2 sur moi?
Mais tu penses qu'il n'y a que toi qui es ma cible? C'est le monde que je vais détruire.
Mais que veux-tu? Que désires-tu, Thanatos?
Tu le sauras bientôt. Parce que Thanatos n'est pas comme tous les autres méchants. Il ne révèle pas ses plans.
Comment? Mais comment diable? Les personnes qui écoutent la transmission que j'enregistrais à l'instant vont-ils savoir ce que tu vas faire?
Ils ne sauront pas. Eh bien voilà.
Ta-da-dum.
Voilà en fait qui est Thanatos. Parce que Thanatos, c'est un vrai méchant dans la France... du début du 20e, en pleine, juste avant, on va dire, la Première Guerre mondiale, qu'il a grandement contribué à déclencher.
Oui.
Et Thanatos, voilà, c'est un méchant qui est dans une sorte de qui est le chef d'une association de malfaiteurs, mais qui est une sorte de Moriarty du début du 20e.
Fantomas.
Un fantôme, ouais, mais non, méchant. Parce que Fantomas, encore, il a un côté gentleman, tu vois. Thanatos, c'est un vrai méchant, quoi. Il n'hésite pas à tuer, il n'hésite pas à torturer, il est abject, quoi. Et que, comme tu le dis, le truc à la fin, c'est voilà. Et Satan créa Thanatos.
Donc Thanatos, c'est une série de Didier Convard et Jean-Yves Delitte.
Et donc Thanatos, voilà, c'est un vrai méchant. C'est un méchant que quand même, quand tu penses l'avoir pris, en fait, ben, par une pirouette, il retourne la situation et il t'a eu. Et surtout, c'est que il donne jamais son vrai plan. Personne n'est au courant, en fait.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut conquérir le monde.
Ou le détruire. Mmh. On ne sait pas. Donc on en est à 4 tomes pour l'instant. Donc, les 2 premiers se suivaient. Le 3e, bon, ils disent récit complet dans le mystère de Lusitania.
C'est ce qu'on appelle un argument commercial fallacieux.
Oui, fallacieux, parce que d'une part, on reprend des personnages des 2 premiers tomes et que pour bien comprendre ce qui se passe dans le récit de Lusitania, c'est quand même bien d'avoir lu les 2 premiers. Et que la fin
super à suivre.
Et que la fin du Lusitania, très honnêtement, soit vous êtes con, soit dans ce cas-là vous dites, je pense qu'il y a une suite parce que voilà.
Donc,
je vais laisser quand même. Non, je l'enlève.
Ton étiquette récit complet, non, tu
l'enlèves. Je l'enlève parce que c'est vraiment du mensonge. Et on arrive donc au dernier, la menace sur Paris. Et là où jusqu'au tome 3 on pouvait avoir un parallèle
reviens sur les 2 premiers tomes.
Non,
okay, vite fait.
Mais justement, j'y arrive dessus là. J'étais en train, tu me coupes. Justement, là où les 3 premiers tomes étaient dans une sorte de parallèle entre la réalité et l'histoire, on va dire, de Thanatos, c'est-à-dire une sorte d'histoire parallèle, mais qui avait des faits réels à l'intérieur qui pouvaient faire croire que voilà, c'est juste nous qui n'avions pas...
Raté les éléments de ce que faisait Thanatos. Ouais.
On n'avait pas toute la véracité des faits.
L'histoire autour de l'histoire.
Voilà, on ne savait pas tout, mais... Derrière tout ça, il y avait Thanatos. Dans le tome 4, là, on change, on n'est vraiment plus dans l'histoire, on est passé dans un autre domaine. C'est-à-dire que, ça y est, là, on est sorti de notre histoire contemporaine à nous que l'on connaît.
Mais c'est de la science-fiction, mon cher.
Et on est rentré, voilà, dans de la science-fiction.
Ok. Les auteurs?
Didier Convard, donc, il est un petit peu connu, il me semble.
Oui.
Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait?
Le mec a préparé, il a fait Neige.
Non, il fait beau aujourd'hui, il ne neige pas ici en tout cas.
Il a fait Neige, une très très bonne série, il me semble que c'est lui qui a fait Neige. D'ailleurs, tu vois, tu me mets le doute, mais c'est pas moi qui ai préparé cette Splash Page.
Ouais, mais la Splash Page, rappelle-toi que tu me l'as donnée juste hier soir. Alors, voilà,
Non, t'avais le temps de choisir. C'est toi qui as choisi juste hier soir. Donc voilà, Didier Convard, t'as un IPC devant toi.
Ouais, mais ton IPC, il faut un code. Non, mais c'est bon, je le connais maintenant. Bon, on va déjà parler de Jean-Yves Delitte, parce que là, au moins, ça, je l'ai.
Ah, Jean-Yves Delitte, le dessinateur.
Le dessinateur. Donc, il a déjà fait, en fait, plein de... qui a fait plusieurs bandes dessinées, qui a fait Belém, qui a fait U-Boot, qui a fait donc Thanatos.
Ah, c'est de la BD à thème, hein.
Qui a fait Crown. Et donc, oui, souvent, un gros rapport donc, avec la marine, parce qu'en fait, Jean-Yves Delitte est dessinateur en fait, officiel de la marine belge.
La classe.
La classe, quand même, ouais. Alors, c'est vrai que, du coup, tout ce qui est décor, tout ce qui est bateau, tout ce qui est décor de mer, là, c'est... splendide.
C'est et, super chiadé, je suis d'accord.
Et le seul reproche, c'est que finalement, tous les personnages sont un petit peu toujours avec la même tête.
Ils sont un peu inertes, un peu plats. Sa mise en scène manque un peu de patate, quoi.
Ouais, voilà. C'est on va dire, des suites de tableaux.
Je trouve que d'ailleurs, que, bah, vu le sujet qui est quand même assez pulp, je trouve que la mise en scène manque un peu de patate, pour un sujet aussi pulp.
Mais c'est grandement rattrapé, je trouve, par le scénario de Didier Convard. Parce que moi, au départ, je sais que toi, tu n'es pas vraiment fan.
Moi, je l'avoue de suite, je serai la voix de la raison. Non, je serai la personne qui dira que je n'ai pas accroché à Donf. Mais bon, vas-y, continue. Toi, tu as aimé, donc tu peux le dire.
Ben, c'est que, au départ, c'est certain que tu te dis, ouais, bon, ça y est, encore un énième patron du crime qui agit... en manipulant les politiques de différents pays, qui... Bon, ouais. Mais au fur et à mesure, tu commences à te retrouver avec un baron du crime qui prend une épaisseur qui est d'une part internationale et puis surtout qui a une logique qui te dépasse, quoi. Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il veut faire. Et tu suis tous les actes de Thanatos en te disant mais putain, mais jusqu'où il va aller, quoi.
Moi, autant le scénario en soi, hein, l'intrigue, je l'ai trouvé sympathique, mais je trouve que les personnages, en fait, manquent d'épaisseur. Thanatos, en fait, Thanatos, par exemple, on n'a aucun indice sur qui il est, ce qui fait que je trouve que j'arrive pas à m'y intéresser. Sans forcément qu'ils nous disent le truc, mais tu sais, qu'ils mettent des fausses pistes, genre on pense que, ou quoi que ce soit, là, t'as même pas ça, quoi. Le mec, je veux dire, il doit avoir un érythème facial à cause de porter du cuir. je veux dire, il n'enlève pas son masque, quoi.
Jamais. Il a du talc. Ouais. Didier Convard donc, a fait Neige.
Ouais.
Il a fait Sherlock, et il a fait donc Thanatos, et il a fait aussi Vinci, d'ailleurs, dont on
va pas parler bientôt, oui. Voilà. Et Sherlock aussi, on voulait en reparler, un de ces quatre.
Oui, aussi.
Moi, j'aime bien Convard en général. Mais là, je trouve que ces personnages, mais pff, ils sont...
Il a fait SOS Gwenmore, pour ceux qui étaient là pour nos 2 ans.
Ouh,
il était coloriste à l'époque.
Oui, c'était le bon temps.
Ou pas. Donc voilà, donc moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que voilà, maintenant, là, tu arrives avec le tome 3, déjà, tu avais une préparation de, bah, justement, du complot, et là, le tome 4, je trouve que voilà, il arrive un peu comme une...
Moi, ce qui m'a déçu, c'est vraiment les personnages, qui ont mis des caractères, je veux dire, ils arrivent quand même à te montrer un personnage féminin. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Qui est censé être le personnage féminin fort. Ils te le présentent comme la femme forte, qui a du caractère, qui ne s'en laisse pas mener. Dans le tome 3 et 4, il lui arrive 2 trucs. Elle se fait baiser par le héros et enlever par le méchant. Tada ! Ça, c'est ce qu'on appelle une femme forte et de caractère. Elle a super bien servi à l'intrigue.
Mais c'est pas elle l'intrigue, quoi.
Oui, non, mais tu essayes pas de poser un personnage de femme forte comme ça, parce que c'est ce qu'il essaye de faire, quand même. Il essaye de la présenter comme une fille qui ne s'en laisse pas faire, quoi. Pour, au final, mais la traiter, mais... Je veux dire, c'est ridicule, quoi. C'est la BD... enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu limite misogyne. Alors, je pense pas que ce soit volontaire. Je pense que on est dans des codes très pulp, etc. Mais ça aurait été plus exagéré. Tu vois, une volonté moins réaliste, que ça serait mieux passé à mes yeux, en tout cas. Hein ? Et puis, pense au dialogue de la femme de chambre.
Oui, 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 oui. Oui.
Voilà.
Alors, c'est certain que certains dialogues ne sont pas piqués des verres.
Je pense que c'est une volonté de faire. Je pense que c'est une volonté de faire Vieille France.
Vieille France, tout à fait.
Il y a cette volonté-là. Mais là, on a un héros, il ressemble à Batman, quoi, je veux dire, sans la cape. Enfin, héros, un méchant.
Ouais, parce
que... Un méchant, il ressemble à Batman sans la cape.
Le héros, c'est méchant, c'est... il tue des milliers de gens.
Voilà, il ressemble à Batman sans la cape, il a une certaine classe d'un point de vue esthétique, d'un point de vue graphique. Les couves sont superbes, elles sont magnifiques, les couvertures de Delitte. On a quelque chose qui te donne envie de t'y attacher, mais je sais pas, moi, il y a un truc qui fait que j'ai pas accroché, quoi. Voilà. Il y a une suite de prévu, tu sais ou pas?
A priori, ben oui, parce qu'on peut pas s'arrêter.
La fin du quatrième. Alors, la fin du quatrième, par contre, tu fais ah ouais, quand même. Il te, si t'as accroché jusqu'au troisième, le quatrième te met un revers dans la face.
C'est ça.
Waouh. Il sort les coronets et il attaque quoi.
Mais surtout, c'est que dans le quatrième, tu as la finalité de tout ce qui a été préparé dans les trois premiers tomes.
Ouais.
C'est là où je te disais que voilà, au départ, tu sais pas où il veut aller. Et quand tu arrives là, tu prends quand même. Enfin, moi, je trouve que le tome 4 m'a mis une grosse claque quand même. Voilà. Enfin bon, faut peut-être aimer. Écoute, moi ça me plaît beaucoup.
On ira à la suite, de toute façon.
Je me régale bien à les lire maintenant.
Voilà. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans les. À les démarrer les 3 et 4. Mais au final, je les ai lus assez vite. Non, ça se lit pas mal. Mais voilà, y a un côté un peu désuet qui, je pense, est volontaire, mais qui passe pas. Voilà.
Tant pis pour toi. Voilà. Moi, ça me plaît.
Mate manga.
Et recoucou, Mathieu. Donc, tu vas nous parler d'un fantastique manga génial qu'on n'a pas lu, hein, forcément. Parce que toi, tu vas parler de trucs qu'on a pas lu. Et puis, quand tu parleras de trucs qu'on a lu, bah là, on t'incrustera dans l'émission normale, tu vois.
D'accord.
On se fera un jour notre splash page sur Gunmu.
Ouais. Ouais, donc comme je te disais, Gunmu, mais la première version, parce que au moment de c'est chiant.
Ah, ouais, je sais, c'est
splash page. J'aurais 2-3 choses à dire sur la deuxième version qui est quand même assez décriée par les fans.
Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, je me suis pas jeté dessus. Donc, tu vas nous parler de Vinland Saga. Alors, ouais, j'essaye de faire mon meilleur accent japonais, Vinland Saga, pour que tu nous en parles. Mais qu'est-ce que donc que c'est que Vinland Saga?
Vinland Saga, je vais pas déroger à la règle, hein, je vais commencer déjà par les deux mots. Donc, pour les deux mots, c'est une épopée viking. Donc,
comme Vinland... Thorgal.
J'y avais pas pensé. Hein. Mais ça peut.
C'est des vikings japonais ou
C'est des vikings,
Des vikings bruns et imberbes. Bruns et imberbes.
Bruns et imberbes, exactement. Non, c'est des vikings. C'est vraiment le viking dans l'esprit que tout le monde a du viking, mais c'est vrai dessiné à sauce manga, donc avec un code de visage de type seinen.
Comme visage de type seinen, tu veux dire que c'est un côté, une volonté un peu réaliste dans les traits.
Un peu réaliste dans les traits, oui, voilà.
Un peu moins les grands yeux qui brillent.
Ah non, surtout pas les grands yeux qui brillent, surtout dans ce manga-là. Les grands yeux qui brillent, bon, bah, voilà, hein, on passera. Si je devais décrire le style de dessin, ça se rapprocherait d'un dessin un peu réaliste à la Pluto, à ce genre de volonté. Tu trouveras pas de super déformé, tu trouveras pas de grand front, de grands yeux où il y a la lumière qui se reflète. Ça se veut très réaliste.
D'accord. Au point réaliste, tiens, c'est une question qui m'a toujours amusé. J'ai toujours remarqué que, par exemple, les yeux bridés étaient rarement représentés dans le manga.
Oui.
Sauf dans certains réalistes, quand je pense par exemple à Pluto, où justement, vu qu'en plus ça se passe, ça se passe en Europe en partie, on fait bien la différence entre les personnages européens et les personnages asiatiques. Ouais. C'est le cas là?
Là, c'est le cas. Tu auras pas d'asiatique, parce que, ben, comme c'est viking, et que ça se passe en 1013, je veux dire, excusez-moi, et que ça traite de l'invasion des vikings danois de l'Angleterre au XIe siècle, tu trouveras pas d'asiatique. Mais par contre, t'as les Français, t'as des Francs, t'as des Anglais, t'as des Vikings, et rien que par les traits, tu arrives à faire la différence assez facilement. Il a bien travaillé justement son côté, personnification et reconnaissance des races et des peuples assez rapidement. Assez rapidement, plus exagéré, mais c'est assez rapide.
Pour parler des particularités graphiques du manga, c'est quelque chose qui est très tramé ou c'est quelque
très
chose...
Très travaillé ouais. Et qui reste très fluide quand même.
Beaucoup de
décors, des détails sur les armures, sur beaucoup de textures au niveau du trait, au niveau des vêtements. Le vêtement a une Le trait a une épaisseur, a une patte. Tu sauras en deux coups de trait reconnaître deux étoffes différentes. T'as par exemple typiquement le roi qui est présent et accompagné de serfs et d'esclaves. Et rien que par le trait, t'arrives à voir la différence de qualité. Le roi sera habillé avec des choses qui sont très chaudes, qui font très soyeux, etc. Tandis que rien que par trois traits posés aux bons endroits, tu auras l'impression de froideur, d'un côté rêche sur des habits. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que t'as un niveau de détail qui est très important. Tu vas avoir des cases qui vont être très grises parce qu'il va y avoir beaucoup de travail et sur la profondeur de champ et sur les textures, les habits. Mais malgré ça, tu vas avoir dans les phases de combat et dans les phases de narration, etc., quelque chose de très très fluide. Ça se lit, t'as l'impression de certains... Dans certains passages, que les cases passent à une vitesse incroyable, alors que sur d'autres moments du manga, tu vas avoir du seinen, tu vas avoir justement des phases beaucoup plus lentes avec des paysages qui sont posés, des champs de culture avec des gros plans sur le blé, avec le vent qui souffle dessus. Donc rien que par le dessin, il arrive à t'imposer un rythme de lecture. Ce qui est quand même assez fort parce que tu vas lire certains autres volumes, tu vas avoir toujours la même vitesse de lecture. Et ben là, sur certains plans, tu vas justement te poser, prendre le temps pour apprécier des moments de calme, tout en ayant quand même un petit côté crainte parce que c'est quand on parlera du scénario, je reviendrai dessus.
Justement, allons-y sur le scénario. Ça raconte quoi ? Parce que les invasions vikings, c'est vaste comme sujet.
Alors, le scénario, c'est une saga. Et ça compte la vengeance d'un héros. Bon, le côté vengeance, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent dans le monde du manga. Mais là, c'est quand même...
Dans le scénario en général. Hein.
Dans le scénario en général, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment très très bien amené, on dirait. Donc, comment il construit son histoire ? Son scénario, tu commences déjà, premier tome, ça raconte... tu découvres en fait un groupe de vikings qui tombe sur un village assiégé par les Francs. Ils décident, Askeladd, le patron de cette troupe de vikings, qui est reconnu même parmi les vikings comme un groupe de vikings assez efficace et assez fort. Et donc cet Askeladd, qui est un très très fin stratège, propose aux Francs de les aider à attaquer le village contre la moitié du butin à l'intérieur du village. Sachant que il propose soit vous nous aidez, soit je propose mon aide au village pour vous démonter la trogne. Donc quoi qu'il se passe, d'entrée de jeu, tu dis ok, dans la présentation du truc, il est gagnant dans de tous les côtés. Et il envoie un certain Thorfinn, qui est le héros. Thorfinn, fils de Thor. Donc ce personnage est particulier. Donc il fait partie de la troupe d'Askeladd. Il suit les ordres d'Askeladd. Mais en fait, il ne suit ses ordres que pour une seule et unique raison. S'il suit ses ordres, la récompense qu'il aura à suivre ses ordres, c'est un duel contre Askeladd pour pouvoir se venger, parce que Askeladd a tué le père de Thorfinn.
D'accord. Là, tu nous racontes l'introduction. J'imagine que ça, c'est vite fait expliqué sur le premier tome. Combien de tomes il y a
pour l'instant, 10 tomes.
10 tomes, il y en a d'autres de prévus ou c'est fini ?
Oui, il y en a d'autres de prévus, et justement, il y a un truc qui est assez sympathique. Premier tome, en fait, tu vas avoir rapidement cette troupe, le niveau de la troupe, le héros qui est un très très bon combattant, Askeladd qui est encore meilleur. Puis tu vas avoir un flashback sur la jeunesse de ce héros, la petite enfance, et pourquoi justement cette histoire de vengeance. Puis après, tu vas avoir de nouveau un saut dans le temps qui va nous emmener en 1008. Puis, après...
C'est des flashbacks perlés au cours de l'histoire, ou c'est tout un tome qui va te raconter un flashback
Ça se suit. C'est en fait, t'as une coupure en fait dans la narration, et tu vas arriver à ce flashback-là, qui va suivre et qui va arriver qui va raconter tout ce qu'il a raconté. En fait, c'est un peu des histoires, des systèmes d'arc, on va dire. Et en fait, les 3-4 premiers volumes servent justement à mettre en place une situation. À partir du 4e-5e volume, on dira la situation mise en place, tous les protagonistes sont présents, et il va dérouler son histoire. Jusqu'à arriver tome 8-9, je ne dis pas lequel, où là, il va se faire un plaisir monstrueux. Tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'il avait construit, tout l'environnement qu'il t'avait présenté, etc., il le détruit en 2 pages.
D'accord.
Il remet tout, mais il remet tout à plat et il change complètement la donne.
Donne-nous le nom de cet auteur fantastique.
Ah, excuse-moi, oui, c'est la moindre des choses. Makoto Yukimura. Il a écrit avant une saga en 4 tomes qui s'appelle Planète, dont un animé a été adapté.
J'en ai bien entendu parler, en bien.
De Planète ?
Ouais.
Malheureusement, je ne connais pas. Ça fait partie de ces choses qu'il faut que je creuse de mon côté et que j'arrive à voir.
Ok, donc Vinland Saga, tu recommandes totalement. C'est le genre de truc, il faut qu'on lise quelques tomes pour se mettre dans le bain, ou est-ce qu'on peut accrocher de suite rien qu'avec le premier
tome ? J'ai accroché dès le premier chapitre.
Dès
le premier chapitre, ouais. D'accord. Et j'ai dévoré les 10 tomes. Il sort à peu près un tome tous les 3 mois. Et,
ok.
Quand le tome sort, en règle générale, j'essaye de me réserver une petite demi-heure, 45 minutes, rien que pour moi, tranquille, pour pouvoir me plonger dedans.
Chez quel éditeur ?
Alors, l'éditeur, c'est chez Kurokawa.
Kurokawa. Ok, ouais. Eh bien, merci beaucoup.
Ouais. 215 pages en moyenne et 7,50€.
D'accord, merci beaucoup pour cette première chronique manga. On se revoit le mois prochain.
Vous avez donné envie de plonger dedans.
Non, ça avait l'air super bien, Vinland Saga, pour le coup. Je croyais que c'était un rapport avec les gouttes de Dieu, tu sais, le pays du vin, la saga du pays du vin, un truc comme ça, mais apparemment rien à voir.
Non, rien à voir.
Donc, merci, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. Tu peux teaser ou tu sais pas encore ce que tu vas faire ?
J'ai quelques idées. Il y aura peut-être du seinen horror et je me réserve la possibilité de faire une histoire très contemporaine, très psychologique. Il faut que je vois si j'ai le temps de finir de trouver ça.
Ça marche, et on se dit au mois prochain.
Ciao.
Hors sujet. Et on va parler jeux vidéo. Et là, en plus, on va pouvoir faire un test super complet.
Ouais, parce que là, franchement, on s'est trop gavé, en fait.
On a tous les deux le même jeu.
Sur 2 consoles différentes.
Sauf que monsieur a les moyens d'avoir de la Full HD, et moi...
Et lui, c'est un pouilleux qui joue ça sur une Wii, quoi.
Voilà, et on va parler de Rayman Origins.
Yeah.
Donc Rayman Origins, c'est un jeu de plateforme. Non, ça c'est pas Rayman Origins.
Ah, ça c'est merde, c'est Super Mario qui me vient à la tête. Non, ça fait un peu des...
Oui, c'est ça. Ça c'est Rayman Origins.
C'est ça, mais ça claque, c'est vraiment un super bon jeu.
Jeu de plateforme classique, où on bouge son Rayman dans des graphismes 2D assez jolis. On reviendra sur la différence sur les 2 consoles un peu plus tard. Où en gros, on doit se balader dans les niveaux pour arriver jusqu'au bout sans crever, en attrapant des objets, des machins choses, et plus on arrive à en choper, plus on débloque le jeu pour
aller... D'autres modes, des parties cachées, des poursuites, et le gros avantage par rapport à Super Mario, c'est qu'on ne meurt pas.
Alors,
on est en vie infinie.
Il y a ce côté vie infinie, c'est-à-dire que c'est surtout le jeu multi, parce que le jeu solo est sympathique, c'est du jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus standard.
Ouais, non, c'est un peu chier.
Avec plein de bonnes idées. Et le jeu multi fait beaucoup penser à ce qu'il y a dans le New Super Mario Bros. Sur la Wii, qui était très 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 fun, mais qui avait un désavantage, c'est que il y avait collision entre les personnages, c'est-à-dire que les personnages se poussaient les uns les autres, et ensuite que chaque joueur avait un nombre de vies limité. Sur le Rayman Origins, on a un nombre de vies illimité, et quand on passe l'un sur l'autre, les sprites en fait n'ont pas de collision entre eux, sauf qu'on peut se donner des baffes.
Ouais, on peut se taper.
On peut se taper quand même, parce que le but, à la fin du niveau, c'est d'avoir attrapé le plus de lums.
Yes.
Et celui qui en a le plus, il peut juste faire « Yeah, je pète !» Voilà,
c'est ça. Et après, du coup, t'as le deuxième qui fait la gueule, voilà. Et qui, à l'étape suivante, te dit ouais, donc maintenant, moi aussi, j'avais plus grosse
donc
que
on
toi.
On peut donner une baffe à l'autre pour l'envoyer dans les pics. Pendant que ce temps-là, on va attraper tous les lumes qui est à proximité.
C'est ça.
Et bonne technique d'enfoiré. Mais on peut aussi s'entraider.
Ouais, c'est-à-dire en envoyer un sur un truc trop dur à faire pendant que les deux ou trois autres attendent en se disant est-ce qu'il va canner ou pas. Comme ça, s'il canne, il revient, on le remet en vie et ensuite il peut y retourner.
Voir sur les courses-poursuites. Ouais. Parce qu'il y a des niveaux, en fait, un peu, c'était pareil un peu dans Mario, il faut courir après un objet. Alors Mario, c'est l'inverse, c'est le niveau qui avance tout seul.
Là, il faut courir
là,
après un corps.
Là, il y a le niveau qui avance tout seul, mais en plus, il faut courir après un corps dans un temps limité avec le décor qui tombe dans tous les sens.
Il faut sauter dans tous les sens, il faut faire plein de séries, voilà.
Et
tout le fou.
Et franchement, je pense que seul, j'aurais pas réussi. Sur certains. Ah ben,
alors moi j'avais quand j'avais commencé à jouer tout seul, j'avais eu beaucoup de mal sur justement le premier coffre et donc avec l'aide d'un collègue, rappelez-vous Isaac. Qui était venu, avec Isaac à deux, d'un coup on l'avait passé quand même beaucoup plus facilement parce que s'il y en a un qui ratait son saut, en fait voilà, ça crée une sorte d'émulation aussi qui aide à passer plus facilement et quand un rate son saut et que l'autre meurt. Et bien du coup sur un moment un poil plus calme du niveau, il peut réussir à remettre en vie le deuxième. Donc du coup ça facilite les choses.
Donc jeu très très prenant, qui a un succès mitigé,
sérieux,
mais apparemment qui a l'air de partir vers le long-seller, c'est-à-dire le jeu à la Nintendo qui se vend sur le long terme. Mais il n'a pas super bien marché, ce qui est dommage parce que Michel Ancel, c'est du jeu français ma bonne dame, Michel Ancel a fait un très bon boulot, donc graphiquement c'est superbe, que ce soit sur PS3, ou sur Wii. Alors après, on ne va pas comparer les qualités techniques des deux consoles. D'autres l'ont fait déjà des milliers de fois.
Voilà. Et puis bon, très honnêtement, si vous avez joué sur PS3 et qu'ensuite vous passez sur Wii, ça vous fait un petit peu bizarre les 5 premières minutes, mais après, on se prend au jeu et on s'en fout complètement du graphisme.
Oui,
donc,
ça c'est...
L'essentiel du jeu n'est pas dans le graphisme, il est quand même vraiment dans le gameplay qui est quand même super agréable, super fluide. Et puis bon, on s'y prend. Après, c'est sûr que bon, sur PS3, moi, je vois, c'est quand même, c'est plus fin, c'est plus joli, c'est plus.
Ce qui est logique.
Voilà, c'est logique. Hein, l'un comme l'autre, on s'est quand même bien régalé. Du coup, on s'est fait ça le 1er janvier, après avoir dormi 3 heures à 4 le 1er janvier l'après-midi. Et on a quasiment torché le jeu, quoi, hein, je crois.
Je ne sais pas, enfin, parce que j'ai pas rejoué depuis.
Ouais, en fait, on a torché quasiment toute la première partie du jeu jusqu'à un moment. Et on s'est dit, on a l'impression d'avoir fait tout le tour, donc ça doit être. On a dû finir la carte. Mais est-ce qu'il n'y a pas une deuxième carte ensuite? On ne sait pas.
Ce qui est possible, c'est un classique des Mario, ça par exemple. Et il y a quand même beaucoup de clins d'œil à tous les jeux vidéo, Mario, etc., dans tous les sens. Des niveaux fun et des musiques rigolotes.
Ouais, les musiques sont super rigolotes.
Sont énormes. Un très très bon jeu, je pense qu'il faut l'acheter, il n'est pas si cher que ça, en plus il a déjà eu droit à une baisse de prix parce qu'il n'a pas bien cartonné au départ.
Ah ouais ?
Ouais, il a déjà eu droit à une baisse de prix, c'est dommage de s'en priver et il mériterait de continuer dans cette voie-là. Et puis moi ce que j'apprécie surtout c'est que pour une fois il y a un jeu multiplateforme, Wii comprise, c'est-à-dire pas que plateforme HD, où le jeu est le même. En dehors de la qualité graphique, souvent ce qu'ils nous ont sorti quand ils nous ont fêté, le jeu qui sortait sur PlayStation et sur Wii, t'avais une version, genre je pense au pouvoir de la force
ouais, t'avais
le jeu sur les consoles HD qui était rien à voir avec le jeu sur les consoles genre
ou alors, ou alors le jeu aussi où tu avais sur la console, sur la 360, t'avais Dark Vador en personnage caché, oui. Sur l'autre t'avais Yoda.
Voilà. Donc là les jeux sont identiques, donc tu te sens pas lésé en jouant à la version Wii. Et tu passes un très bon moment, surtout les jeux Wii en plus sont vraiment moins chers que les jeux Play à la base. Foncez dessus. Et ben on va pouvoir se dire au revoir. Voilà, avec un peu de retard parce que on est des bouses.
On vous explique. Enfin, il vous expliquera peut-être ça sur le forum.
Ouais, si vous êtes curieux, tout ça.
Voilà, si vous posez la question de ce qui s'est passé, mais on peut pas vous dire tout de suite, quoi.
C'est trop
douloureux. Merci à tous. Donc,
oui.
Surtout n'hésitez pas à laisser n'hésitez pas à laisser des messages sur iTunes, sur le site La Voix des Bulles.
Oui, par exemple, sur iTunes, on a vachement pas beaucoup de commentaires. Genre, les pauvres nazes de Culture Breakdown, Griffou, je sais que tu m'entends, ont vachement plus de commentaires sur iTunes que nous, vachement plus de bonnes notes, et c'est trop la honte, alors qu'ils sont arrivés après nous. C'est dégueulasse.
Ah, mais ça, c'est parce qu'eux, ils ont un cercle d'initiés qui.
Ouais. c'est ça. Et puis oui, donc c'était le commentaire. Et puis si vous voulez qu'on se rencontre, je serai moi à Angoulême donc du jeudi au dimanche. Donc je devrais réussir à trouver des moments pour aller boire un verre, discuter, etc. Donc si vous êtes sur Angoulême, le plus simple c'est de m'envoyer un petit message sur Twitter. Donc c'est OneAPI sur Twitter. Et puis comme ça vous pourrez voir à quel point je suis en deçà de l'image que ma voix donne. Voilà. Merci de nous avoir.
Le mec il s'aime beaucoup quand même. Ouais. Je t'ai démonté, mais c'est énorme.
Merci de nous avoir écoutés.
J'ai rien dit.
Ouais, non, mais
merci de nous avoir écoutés. Et surtout, bah, écoutez, prenez du plaisir. Vous pouvez tracher sur lui aussi si vous avez.
Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle émission.
Ciao, ciao.
Compte envoyer tes missiles U2 sur moi. Attends pour comprendre les blagues là.
Attends, je la refais alors.